écoutez RFI, il est 19h en temps universel, 20h ici à Paris. Bonsoir à toutes et à tous.
Amélie Beaucourt.
Rencontre au sommet entre Washington et Moscou, les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont entretenus à Riyad. Pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était il y a bientôt 3 ans. Après plusieurs mois de guerre qui l'opposait au Hezbollah, l'armée israélienne s'est retirée du Liban, sauf dans 5 positions qu'elle a décidé de conserver, malgré l'accord de cesser le feu, nous expliquera notre correspondant à Beyrouth. Et puis on reviendra sur l'affaire des violences sexuelles de Betaram, une école catholique du sud-ouest de la France, dossier sur lequel a de nouveau été interrogé ce mardi le Premier ministre François Bayrou. En Arabie Saoudite, les chefs de la diplomatie américaine et russe avaient rendez-vous ce mardi. Une première depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a presque 3 ans. Leurs délégations se sont rencontrées et ont échangé pendant 4h30 à Riyad. Première étape d'une reprise du dialogue. Si rien de concret n'est sorti de leurs discussions, les perspectives de rapprochement entre les deux pays, elles, s'accélèrent. Anissa El-Jabri.
La partie russe avait prévenu. La première pierre des échanges était à ses yeux le rétablissement des canaux diplomatiques officiels. Sans surprise, c'est décrit par le chef de la diplomatie russe comme le tout premier résultat concret obtenu.
La première chose, qui est probablement la plus urgente et la plus difficile, est de faire en sorte que les ambassadeurs de Russie aux États-Unis et des États-Unis en Russie soient nommés le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est de supprimer les obstacles qui, depuis de nombreuses années, en particulier sous l'administration Biden, ont été érigés en direction de nos missions diplomatiques, entravant sérieusement leur travail. Et les expulsions incessantes de nos diplomates auxquelles nous avons dû répondre.
Au printemps 2022, les Occidentaux avaient procédé à des expulsions massives de diplomates russes, jugeant leur présence sur leur sol contraire à leurs intérêts de sécurité. La Russie avait ensuite répliqué. Et puis Moscou reste encore officiellement discret sur le sujet, mais bien d'autres concessions des États-Unis sont sur la table. Sergueï Lavrov.
Il y avait un grand intérêt à éliminer les obstacles artificiels au développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique.
De la capitale russe, la porte-parole de la diplomatie a précisé quelques heures plus tard que l'énergie et l'espace faisaient partie des secteurs où la reprise de la coopération est sur la table. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Une rencontre avec au programme la guerre en Ukraine, mais sans les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky a dénoncé ces discussions et annoncé qu'il annulait son voyage en Arabie Saoudite prévu à l'origine ce mercredi. C'est le jour choisi justement par la France pour organiser une deuxième réunion pour contrer les initiatives russo-américaines en Europe. La première s'était tenue lundi, en petit comité avec une dizaine de dirigeants européens. Cette fois, la liste des invités est élargie à d'autres alliés de l'OTAN. Le Canada, la Norvège, les Pays-Baltes ou encore la Finlande se retrouveront demain autour d'Emmanuel Macron, alors que l'Ukraine entrera dans la 3e année de cette guerre avec son voisin russe. Après le Panama et le Guatemala, le Costa Rica se met à son tour au service de Donald Trump. Les autorités costaricaines annoncent qu'elles vont prendre en charge 200 migrants arrêtés aux États-Unis. La Maison-Blanche ne cache plus son intention d'externaliser la rétention des personnes sans papier. Et tout doit aller très vite. Le premier vol commercial vers San José, la capitale, décollera dès demain. Vincent Souriau.
Le profil de ces migrants, ils sont originaires d'Inde et d'Asie centrale. 200 personnes dans un premier temps, peut-être beaucoup plus à l'avenir, mais les détails de l'accord signé avec Washington restent confidentiels. On ne sait pas non plus combien de temps leur rétention au Costa Rica va durer. Les autorités costariciennes se contentent d'une phrase « Nous allons servir de passerelle pour leur retour dans leur pays d'origine ». Les expulsés vont rejoindre un foyer spécialisé dans le sud du pays, processus financé à 100% par le gouvernement américain, sous la supervision de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, l'agence des Nations unies qui sera chargée d'organiser et de contrôler leurs conditions de détention. Cette annonce intervient 15 jours après la visite de Marco Rubio au Costa Rica, le patron de la diplomatie américaine, visite pendant laquelle le président costaricien avait souligné la solidité de l'alliance entre les deux pays et annoncé d'importants accords autour de l'immigration illégal.
Au Liban, l'armée israélienne s'est retirée ce mardi des derniers villages frontaliers qu'elle occupait encore, conformément à ce qui était prévu par l'accord de cessez-le-feu, censé mettre fin à 66 jours de guerre entre le Hezbollah et les soldats israéliens. Elle a cependant maintenu 5 positions en territoire libanais. Beyrouth a dénoncé une occupation et décidé de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Les trois plus hauts dirigeants du Liban, le chef de l'État Joseph Aoun, le premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri, ont publié un communiqué commun après une réunion extraordinaire ce mardi matin pour exiger un retrait israélien total. Ils ont estimé que toute présence israélienne, même sur un pouce du territoire, est une occupation et ont décidé de porter l'affaire au Conseil de sécurité. Cette démarche diplomatique enclenchée par le Liban n'est pas la seule option. Les trois présidents ont insisté sur le droit des Libanais à libérer leurs terres par tous les moyens et ont réaffirmé la détermination de l'État à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. La présence des troupes israéliennes sur les cinq collines n'a pas empêché l'armée libanaise de se déployer dans 11 localités évacuées ces dernières heures. Des centaines de personnes ont suivi les soldats, faisant parfois des kilomètres à pied en brandissant des drapeaux du Liban et du Hezbollah et des portraits de Hassan Nasrallah. Les habitants ont découvert un paysage lunaire, les images sont parlantes. Des quartiers entiers en ruines, des routes défoncées, des canalisations d'eau et des infrastructures électriques détruites. Ces 11 localités sont tout simplement inhabitables. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Beyrouth qui a également annoncé ce mardi la fermeture de son aéroport dimanche, le temps des funérailles d'Hassan Nasrallah, ancien chef du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne fin septembre. En France, le Premier ministre maintient sa position dans l'affaire de Betaram. Cet établissement catholique du Sud-Ouest est visé par des centaines de plaintes pour agressions sexuelles. François Bayrou est soupçonné d'avoir eu connaissance de ces violences qui remontent aux années 90, puisqu'il est originaire de la région, qu'il y a été élu et y a même scolarisé ses enfants. Après avoir nié une première fois, il a de nouveau été interrogé sur ce dossier mardi à l'Assemblée nationale. Cette fois, il a renvoyé la responsabilité sur le Parti socialiste qui était au pouvoir à l'époque, expliquant que le procureur général avait en 1998 informé la ministre de la Justice du gouvernement de Lionel Jospin. Les explications de Charlotte Urien-Tomaca.
C'est la députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Colette Capdevielle, qui a ouvert les hostilités, réclamant à François Bayrou des réponses à ses questions sur l'intervention du Premier ministre dans cette affaire. Et cette fois-ci, le locataire de Matignon change de stratégie et riposte en visant la garde des Sceaux de l'époque.
Est-ce que je suis jamais intervenu dans cette affaire? La réponse est non, jamais. Ni de près, ni de loin. Mais si je ne savais pas, d'autres savaient. Parce que j'affirme devant vous que le procureur général, lui, a tenu à informer la chancellerie sur ces affaires à 4 reprises dans l'année 1998.
Mais l'élu PS balaye les accusations du Premier ministre, Colette Capdevielle.
Aujourd'hui, on n'a pas de réponse et François Bayrou essaie de retourner la responsabilité. Le Premier ministre s'embourbe.
Du côté de la France insoumise, le député Paul Vannier, également à l'offensive sur le sujet, n'est pas non plus convaincu.
C'est une attitude irresponsable, les Français attendent des réponses et ce choix du déni, du silence, au fond exacerbe les doutes. Et ces mensonges successifs deviennent un mensonge d'État, une affaire d'État. C'est extrêmement grave, il doit démissionner.
François Bayrou est toujours sous pression, la gauche continue d'exiger des réponses.
Un nouveau pas vers l'interdiction des polluants éternels. L'association Génération Future a saisi le Conseil d'État ce mardi pour demander le retrait des produits à base de flufénacète, un herbicide utilisé dans la culture des céréales, classé perturbateur endocrinien par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Il est l'un des 10 herbicides les plus utilisés dans l'agriculture française. Il serait responsable de malformations du foie et des organes reproducteurs. Génération Future avait déjà demandé à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de retirer ce produit, mais celle-ci n'avait pas donné suite. La saisie du Conseil d'État intervient alors qu'une proposition de loi sur l'interdiction de certains polluants éternels sera discutée à l'Assemblée nationale jeudi. Et en France, toujours Robert Ménard, le maire de Béziers, ville du Sud-Est, devra bientôt s'expliquer devant un tribunal correctionnel. Il y a moins de 2 ans, l'élu proche de l'extrême droite avait refusé de marier un couple parce que le conjoint, un ressortissant algérien, était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. L'homme a depuis été expulsé. Ce mardi, le maire a refusé la procédure de plaidé coupable proposée par le procureur. L'affaire ira donc jusqu'au procès. Il risque jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, Afrique Soir, dans 20 minutes. Et juste après, vous retrouverez Queen Rima, lauréate du prix RFI Découverte, dans Couleurs Tropicales. Ce sera à 20h10, temps universel. We'll be right back.